Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement sur votre application favorite de podcast. Nouveau volet de notre regard sur l'Indo-Pacifique, un concept qui fait débat et dont la question de la durabilité se pose peut-être. Pour y répondre, nos invités par téléphone, Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de deux ouvrages, Le Japon en sans question et La Chine en sans question. Aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Marianne Perrondoise, chercheure Asie et sécurité maritime à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, coordinatrice avec Maude Kessard du grand dossier de la revue Diplomatie consacrée à l'Indo-Pacifique. Bonjour.
Bonjour.
David Camroux, chercheur honoraire aux séries de Sciences Po et professeur invité à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales, auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre histoire du XXe siècle aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
L'Indo-Pacifique, on l'a évoqué dans l'émission d'hier, est un concept qui connaît une variété d'approches selon les acteurs, sens par ailleurs de consensus sur sa portée politico-stratégique et même ses contours géographiques. Qu'est-ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui de cette idée lancée, je le rappelle, en 2007 par le Premier ministre japonais Shinzo Abe? Qu'est-ce que l'on peut dire des acquis de l'Indo-Pacifique, Valérie Niquet?
Alors, je ne sais pas si on peut véritablement parler d'acquis, en dehors peut-être, encore une fois, d'une prise de conscience. Dans des régions très éloignées, on a toujours eu cette idée que l'Asie, économiquement, était le cœur de la croissance mondiale et que la stabilité en Asie était essentielle pour le reste du monde. Mais il y a tout de même cette prise de conscience de l'importance, à la fois économique, mais aussi stratégique de l'Asie, dans des régions, encore une fois, qui sont très éloignées géographiquement de cette zone. Et je reviens au rôle de l'Union européenne et à cette prise de conscience en Europe, même si elle reste très limitée. L'autre élément, ça n'est pas un acquis, mais c'est une prise de conscience du fait que, en dépit de tout ce qu'on a pu espérer quand on pensait à l'intégration de la puissance chinoise, à une puissance chinoise qui allait progressivement évoluer, se transformer, se normaliser, notamment après son entrée à l'OMC, on voit que ça n'est pas du tout ce qui s'est produit et qu'au contraire, il y a des rapports de force qui se sont instaurés avec Pékin qui a comme objectif non pas de conquérir le monde, mais en tout cas de s'imposer dans sa région notamment comme la puissance leader avec tout un système de normes qu'elle tenterait de mettre en place et qui serait reconnu par le reste du monde. Et donc on a une sorte de bipolarisation, qu'on le reconnaisse ou non, entre d'un côté un système politique en Chine qui n'a pas subi de transformation politique et pour qui la transformation politique est considérée comme la menace essentielle, un régime qui est aussi évidemment très pragmatique, qui lui a permis de tisser des liens avec le reste et de sa région et le reste du monde. Et de l'autre côté, des puissances, que ce soit en Asie, dans l'océan Indien, en Europe et au-delà, qui prennent conscience du danger que représente pour ce qu'on appelle le système libéral international, de l'émergence de cette puissance chinoise sans contrôle et qui a progressivement élaboré des réflexions qu'on peut qualifier de Indo-Pacifique, stratégie ou initiative ou autre, mais en tout cas qui reflète ses préoccupations.
Alors, David Camroux, je me tourne vers vous sur ces acquis.
Je trouve que l'Indo-Pacifique, pour être franc, est un concept assez creux. Si on regarde, en fait, par rapport à la politique étrangère américaine en Asie-Pacifique, en Asie, depuis l'annexion des Philippines en 1898, il y avait toujours trois volets. Un volet économique, un volet sécurité, et disons un troisième volet un peu moral. Alors, ce qu'on voit dans le concept Indo-Pacifique, on insiste beaucoup sur l'aspect sécurité, mais l'aspect économique est largement absent, ce qui n'était pas le cas pour la politique d'Obama. Le TPP, le Trans-Pacific Partnership, était justement fait pour que les États-Unis déterminent les normes à la fois de commerce et d'investissement dans l'ensemble de la région. Alors, ce qui est arrivé quand Trump se retirait du TPP, les Japonais avec les autres ont fait un TPP à 11. Et ils ont montré, écoutez, si les États-Unis n'intéressent pas à ces questions de commerce, nous allons faire cavalier seul. Donc la politique bilatérale de Trump a quand même un certain nombre de défauts, est un peu en contradiction justement à la promotion d'un concept régional d'Indo-Pacifique.
Marianne Perrondoise.
Alors moi, j'irai plus loin que David Camerou. Ce système libéral international qu'apparemment souhaite protéger ce concept d'Indo-Pacifique, avec cette réorganisation d'un ensemble de puissances moyennes, est-ce vraiment la Chine la menace, précisément, comme nous l'a expliqué Valérie Niquet, ou est-ce que c'est cette imprévisibilité et cette déconstruction un peu systématique et un peu graduelle de ce système international sous son angle économique, sa fragilité politique et sa faiblesse en termes de morale et en termes de soutien du multilatéralisme? Est-ce qu'il se trouve vraiment à Pékin? Bon, certes, mais est-ce que en l'état actuel, ce que ressent l'ensemble des puissances moyennes de la région, c'est que cette menace, elle se trouve également du côté de Washington, et que ce retour diplomatique, cette revalorisation stratégique de ces puissances moyennes, Australie, Japon, Union européenne, Corée du Sud, Inde, c'est le souci effectivement d'incarner un certain équilibre pour éviter que ce système, sur les coups répétés de ces deux puissances qui sont livrées dans une guerre assez aveugle, pour essayer de préserver l'essentiel de ce système.
Pierre Grossard.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que la Chine, par exemple, a été assez critique sur le discours sur l'Indo-Pacifique, mais on réfléchit beaucoup dans les think tanks chinois, et donc on n'est pas totalement hostile. Et d'ailleurs, on peut retrouver des textes au début des années 90 qui montrent que la Chine a pensé à cette connexion entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Un des pays, finalement, qui est le plus hostile, c'est la Russie, qui multiplie les déclarations pour justement dire que c'est l'impérialisme américain, que c'est la volonté donc des États-Unis de contenir la Chine, et donc qui d'une certaine façon essaye de jouer cette carte de l'hostilité des États-Unis à la Chine, entre autres pour garder les bonnes relations avec la Chine. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant de voir aussi le rôle de la Russie, parce que la Russie revient un peu dans le Pacifique Sud, la Russie est en train de vendre des armes à l'Indonésie, en tout cas on en parle, la Russie a toujours gardé des bonnes relations avec le Vietnam, avec l'Inde aussi, hein. Tout ça ce sont les alliés, j'allais dire, historiques, même si aujourd'hui il n'y a plus d'alliances comme il y avait au temps de l'Union soviétique. Donc il faut voir, je crois, au-delà aussi de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, je crois que ce qui est très très frappant dans la région, c'est le retour à une forme de diplomatie assez traditionnelle de type multipolaire, multilatéral, où on essaye de multiplier les partenariats, les exercices militaires conjoints, les coopérations, etc. Et donc, d'ailleurs, je pense que ça doit être un cauchemar pour les diplomates de tenir à jour tous ces partenariats pour tout un pays, comme je viens de citer le Vietnam, et on multiplie, donc tout en ayant des relations très complexes avec la Chine, des relations avec tout un tas d'acteurs régionaux. On parlait de la Corée du Sud tout à l'heure, on pourrait parler du Japon aussi. En ce moment, il y a des discussions aussi, j'ai vu passer des papiers, Australie, Inde, Indonésie. Enfin voilà, on multiplie les formats, on multiplie les coopérations. L'Union européenne va amener évidemment aussi toutes ces workshops, ces discussions, etc. Et donc, on a un tissu tout à fait considérable d'accords. La seule chose qui, je crois, est la grande interrogation, et je reprends ce que Marianne vient de dire, c'est s'il y a une crise qui n'est pas forcément une crise entre États-Unis et Chine, comment tout ce système qui est mis en place de partenariat va réagir? Est-ce que finalement, c'est juste, j'allais dire, du kérosène dépensé pour se retrouver dans des accords et dans des discussions, etc.? Ou est-ce qu'il y a derrière quelque chose de très concret pour faire face à des crises très concrètes?
Parce que finalement, et pour aller plus loin, j'évoquais tout à l'heure en introduction la question de la variété des approches des uns et des autres vis-à-vis de l'Indo-Pacifique, sans mentionner quelque chose qui est tout de même en sous-main, on l'a évoqué hier aussi, c'est un problème d'entente régionale entre les uns et les autres avec des degrés différents, avec des contentieux qui n'ont pas été réglés. Je pense au Japon, il y a la Corée du Sud. Enfin voilà, tout ça ajoute finalement une strate à cette difficulté de cohésion de l'Indo-Pacifique. Est-ce que je me trompe, Marianne Perrandoise?
Oui, on peut parler d'une grande fluidité de la construction Indo-Pacifique avec la superposition d'un mini-latéralisme quand on se retrouve effectivement à trois vers un multilatéralisme à vocation régionale, mais c'est vrai que la construction indo-pacifiste, elle est quand même très vaste, et l'ASEAN n'est peut-être pas l'architecture régionale qui permet d'avoir une vision complète de ce vaste espace, parce que à ce moment-là, l'Océanie peut se trouver extrêmement marginalisée, la côte est de l'Afrique inclus dans l'Indo-Pacifique peut se sentir extrêmement marginalisé et oublié, et aurait peut-être tendance effectivement à trouver que le schéma de route maritime de la soie, qui apporte une réponse très concrète à ses besoins en termes de développement et en termes d'économie, sous la forme de modernisation des infrastructures portuaires sur tout le parcours, peut être jugé plus intéressant que des engagements de sécurité des États-Unis qui se révèlent finalement assez peu fiable. Donc cette région, elle est vaste, elle n'a pas d'architecture régionale qui soit suffisamment représentative, et donc on revient effectivement vers cette centralité de l'ASEAN, mais qui recouvre finalement beaucoup d'inimitiés entre Singapour et entre la Malaisie, et il y a beaucoup de litiges qui sont non résolus, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement il y a cette crainte d'un déséquilibre et d'une crise majeure dont la Chine et les États-Unis seraient à l'origine. Et ça, je pense que c'est le seul ciment véritable de l'ensemble de cette zone. Ne pas se retrouver piégé dans cette compétition de puissance.
David Cameron.
Oui, justement, les pays de l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Inde, faisaient partie d'une négociation pour ce qu'on appelle la ACEP, en fait un accord de libre-échange promu par les Chinois, qui était un peu... avec un certain nombre de membres que dans la TPP, mais qui était aussi une façon, avec la route de la soie, pour la Chine de se mettre justement comme le coordinateur d'une construction régionale. Et c'est l'Inde, pour des raisons, disons, de politique intérieure protectionniste, qui a refusé de signer, en fait, le corps récemment avec la Chine. Donc, il y a cette rivalité. Aussi, le problème, c'est que l'Indo-Pacifique, un peu comme l'Asie-Pacifique, n'a pas aidé dans la résolution des problèmes internes des pays. Je pense, par exemple, à la crise en Myanmar, en Birmanie, concernant les Rohingyas. Vous avez 700 000 personnes expulsées d'un pays, qui sont passées à Bangladesh, qui soutient les militaires ou le gouvernement birman. C'est la Chine, mais en même temps, l'ASEAN n'a pas trouvé pour l'instant son rôle pour essayer de trouver une solution à cette question, parce que ça, c'est aussi lié à la politique chinoise qui est de créer, à situer justement dans la baie de Bengale, un port pour importer du pétrole et du gaz pour l'amener vers le Yunnan et pour éviter de passer justement par le détroit de Malacca. Donc tout ça, c'est lié et avec des conséquences internes pour les pays de la région.
Alors, effectivement, le Quad n'a pas non plus réagi. Je rappelle qu'il rassemble l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis avec absence de siège. Finalement, l'acquis de l'Indo-Pacifique, c'est peut-être une ouverture ou réouverture de canaux de dialogue avec des pays peut-être avec lesquels cela ne se faisait pas. Les relations transatlantiques, elles sont dans l'état qu'on connaît. Il y a eu suffisamment d'émissions sur géopolitique pour en faire part. Est-ce qu'on peut voir dans l'Indo-Pacifique précisément peut-être une façon pour l'Europe et la France de retrouver des canaux de communication avec les États-Unis? Pierre Grosser.
Ce qui est assez étonnant, c'est que quand il y a eu le pivot, donc les Américains se sont dit, voilà, c'est important d'avoir un rôle plus important en Asie, ils ont quand même dit à plusieurs reprises aux Européens, il faudrait bien que vous soyez avec nous, venez, etc. Et c'était un moment, donc le début des années 2010, où on n'a pas été très très intéressé par les questions Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, où nous nous intéressons beaucoup plus depuis 2-3 ans aux questions Asie-Pacifique, le problème c'est que le canal de dialogue avec les États-Unis devient plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais notamment au niveau diplomatique, il est vraiment très très problématique. Et on le voit évidemment dans les positions aussi par rapport à la Chine, où les États-Unis n'ont quand même que très très peu essayé de faire un alignement États-Unis-Union européenne face à la Chine. finalement, il y a eu peut-être une occasion manquée, je pense, au début des années 2010, d'avoir une politique un peu commune. Alors, on n'est pas tout à fait sur les mêmes phases, et donc je pense que le transatlantique ne fonctionne pas énormément dans ce cas-là. Alors, on peut aussi remonter avant, où il y avait l'idée d'une global NATO, en faisant finalement une espèce, avec le Japon, l'Australie, les grandes démocraties, d'avoir une OTAN un peu mondialisée. Ça tenait pas tellement debout, mais on voit bien qu'il y a eu, je pense, pas mal d'occasions manquées de connecter finalement à l'échelle mondiale les stratégies des puissances occidentales.
Alors, on l'a évoqué très rapidement, la Russie, plutôt hostile à l'Indo-Pacifique, vous l'avez dit, la Russie qui est présente en Afrique, qu'est-ce que l'on peut dire de la vision des pays d'Afrique de l'Est vis-à-vis de ce concept Indo-Pacifique ?
Marianne Perron. Je pense que les pays d'Afrique de l'Est ne se sentent peut-être pas Indo-Pacifiques précisément, et ne cherchent pas sans doute cette étiquette. Je pense qu'ils ont des besoins de sécurité très concrets liés à leur domaine maritime. Et pour l'instant, la seule réponse politique et économique concrète qui leur est apportée, elle se fait à travers la Chine et les investissements chinois, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Kenya, avec le port de Mombasa, ou au Mozambique, où vous avez un certain nombre de constructions et de projets d'investissement assez intéressants et très vastes, puisque à la fois, il y a une connexion portuaire et derrière, effectivement, adossée à la modernisation de réseaux ferroviaires qui permettent effectivement de désenclaver l'arrière-pays africain qui vont jusqu'au Rwanda, par exemple. Et la Corne de l'Afrique bénéficie pour l'instant de façon très positive, en tout cas, si j'en juge par la réception du Kenya ou de l'Éthiopie, par rapport à ces investissements chinois. Alors évidemment, on ne peut que parler du piège de la dette et se demander dans quelle mesure ces investissements ne vont pas peser sur la politique interne et l'autonomie économique de ces pays. On le verra sur le long terme. On peut peut-être dire un mot de Djibouti.
Oui.
C'est une plateforme stratégique où tout le monde s'est précipité, où le Japon s'est établi pour des raisons de continuité logistique à des infrastructures qu'elle ne souhaite pas appeler base permanente, mais où on a vu une espèce de course où la Russie a souhaité obtenir des facilités et où effectivement en 2016 la Chine s'est installée sur une très très vaste enclave, et où on a vu en fait une installation militaire, mais aussi une installation économique avec ce projet de modernisation du port de Doralay, avec dans l'esprit des autorités de djiboutiennes peut-être ce rêve d'entrer en compétition avec Dubaï, qui est quand même le port de référence en termes de puissance économique et d'influence. Et c'est vrai que cette installation de la Chine à Djibouti a ravivé les inquiétudes indiennes, les inquiétudes japonaises, et a peut-être incité à des formules d'alliance, je dirais, un petit peu plus concrètes, sous la forme de propositions d'investissement, où on a vu effectivement le Premier ministre Abe se rapprocher de l'Inde pour essayer de constituer une forme d'alternative économique en direction des pays africains, où, vous le savez, le Japon a toujours été extrêmement présent.
Alors, en guise de conclusion, Valérie Niquet, le concept Indo-Pacifique, un concept durable ?
Je pense que oui. Je pense que les logiques qui le fondent, quelles que soient ses limites, font que c'est un concept qui va durer, même si son contenu est extrêmement mouvant, en effet.
David Cameron.
Je suis d'accord. En fait. Le fait que les pays comme l'Indonésie et l'Australie trouvent un peu, on pense à un problème existentiel, fait en sorte que je crois que le concept aussi va continuer.
Pierre Grosser.
Je pense que même si le concept avait un petit peu disparu, dans la réalité, le fait qu'il y ait depuis le Moyen-Orient et l'Afrique jusqu'au Pacifique Sud un continuum stratégique était une réalité. Et donc maintenant, on en prend conscience. Mais voilà, c'était une réalité déjà auparavant pour toutes les marines, pour les grands stratèges et le containment de la Chine ou l'Union soviétique.
Marianne Perrondoise.
C'est un concept qui permet aux puissances moyennes de reprendre possession dans les relations internationales. Donc c'est un retour de la diplomatie des puissances moyennes. Donc on casse un peu ce schéma bipolaire que les États-Unis et la Chine tendent à vouloir réinstaurer. Et donc je pense que ce concept, il a une certaine durée.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Marianne Perrondoise, je rappelle que vous êtes chercheure Asie et sécurité maritime à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et coordinatrice pour ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Maud Kessa du grand dossier de la revue Diplomatie consacrée à l'Indo-Pacifique. Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. David Cameron, chercheur honoraire aux séries de Sciences Po, professeur invité à l'Université l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Et avec votre accent, on peut juste préciser, David Cambrou, que vous êtes franco-australien. Et Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales et auteur de l'histoire du monde se fait en Asie, une autre histoire du XXe siècle. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez pour Géopolitique. À très bientôt.